L'émission de la SAN, la Société d'Astronomie de Nantes. Bienvenue dans le monde des étoiles avec Pulsan, l'émission radio de la Société d'Astronomie de Nantes. À la découverte de l'univers, le monde étrange des étoiles. Bonsoir à toutes et tous, nous sommes en direct sur Alter Nantes, 98.1 FM à Nantes, 91 à Saint-Nazaire. Vous êtes avec la Société d'Astronomie de Nantes pour Pulsan, l'émission de la SAN. L'émission en direct qui se déroule tous les 15 jours.
Et des fois ça s'entend.
Et souvent ça s'entend que c'est en direct, d'ailleurs. Ce soir c'est une émission consacrée en plus grosse partie au soleil. Parce qu'on va vous passer l'interview de Jean-Paul Zahn qu'on a effectué lors de sa venue à Nantes pour une conférence sur le soleil. Et on vous parlera un peu de cet astre... assez merveilleux.
De cette étoile, en fait.
Et en fait, ce que j'allais dire, voilà, tu me coupes encore... de la seule étoile qu'on a la chance de voir le disque. C'est quand même une des seules qu'on arrive à voir le disque facilement. Donc on va vous en parler tout à l'heure. Nous allons aussi aborder les deux petites chroniques habituelles, le ciel du mois, les actus astro, et puis vous donner quelques nouvelles de l'astronomie au sens large, et plus les petites nouvelles qu'on a vous donner, c'est surtout sur l'astronomie à Nantes, qui se développe, et comme la SAN d'ailleurs.
Absolument.
Et donc on va vous donner un peu des petites nouvelles. Voilà, vous êtes en direct, c'est parti, c'est Pulsan.
Ah, oh, c'est à moi.
C'est à toi, voilà. C'est parti.
Bien, eh bien, quelques petites nouvelles, bien sûr, ça fourmille, hein, mais alors nous on est encore sous l'émotion de la conférence d'André Braik de mercredi 6 juin, mercredi dernier. C'était absolument éblouissant, hein, je crois que les gens qui ont été ont encore un souvenir ému. Alors en fait, je me demande si c'était une conférence ou un show.
C'est un peu les deux.
André Braik a vraiment réunissait tous les atouts d'un orateur exceptionnel. Et en même temps, il a su captiver son public. Il était drôle en plus. Alors ce qui était beaucoup plus sérieusement cette fois-ci, ce qui était intéressant dans cette conférence d'André Braik, qui rappelons-le, est un des grands spécialistes de l'exploration du système solaire, donc il a vécu toute l'aventure avec toutes les sondes, il participe aux commissions. C'est lui qui a été dans les commissions pour lancer les missions Cassini-Huygens. Enfin, il est vraiment au cœur de cette aventure absolument fabuleuse. En même temps, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié les systèmes d'anneaux. Il a découvert notamment avec un ami, avec William Hubbard, il a découvert les anneaux de Neptune. Donc c'est pas n'importe qui. Et alors c'est un homme absolument absolument généreux, étonnant. Et donc ce qui était intéressant, c'est qu'il a fait un lien dans sa conférence entre eux. On est passé des planètes aux étoiles. À chaque fois, il faisait un lien d'une part entre les différentes composantes de l'astrophysique, hein, qu'il n'y a pas vraiment d'objet astronomique en particulier qui est intéressant, tout est lié. Et là on a fait un balayage, si on peut dire, entre guillemets, de toute l'astronomie moderne par quelqu'un qui la vit, et en même temps on a vu les méthodes. Alors c'était absolument éblouissant, c'était 2 heures de conférence mémorable. Ça, et alors beaucoup de gens nous en parlent, c'était vraiment extraordinaire, et ils ne regrettent pas d'être venus. Alors voilà, on le savait, on a été heureux d'avoir la chance de faire venir André Braik, parce qu'il faut savoir qu'il est tellement pris que vraiment il ne va plus partout, mais il vient à Nantes, parce qu'il nous aime bien, je crois. Parce qu'on...
Oui, tout à fait, il l'a dit, en fait, il l'a dit après qu'il aimait bien Nantes. On a eu la chance en plus d'avoir quelques exclusivités, c'est une de ses spécialités quand il vient à Nantes. Il nous a montré des images qui venaient de paraître la veille, certaines qui avaient 5 jours, donc il y en a une qui dit, elle est parue hier, donc je vous l'emmène.
Personne n'a encore vu, c'est comme en 91, où il avait amené une cassette. Il avait piraté ça aux Américains, ouais. Et puis il a fallu attendre quelques semaines pour que les gens voient ça à la télé ici, chez nous.
C'est vrai qu'il avait reçu la cassette en 91 sur son bureau, il l'avait embarqué avant de partir à Nantes, il dit je la mets, je sais pas trop ce que c'est. Et on a eu la chance de voir, c'était Magellan qui se baladait, grâce aux images de Magellan, on se baladait entre guillemets sur Vénus.
Alors ce qu'on peut dire aussi aux auditeurs, après on est allé, on l'a emmené manger, parce qu'on ne peut jamais manger avant, n'est-ce pas? On est allé, on peut le dire, c'est pas pour faire
oui, non, vas-y.
Passe-Galère, la cigale, et puis là, à la table à côté, il y avait Muriel Robin, et puis Pierre Palma.
Il y avait du monde.
Alors bref, il était content aussi. Ouais, c'est rigolo, ça fait partie des petites choses... qui égrène un peu, qui égaye un peu cette vie trépidante de la SAN le soir. Hein. Alors, si vous n'en êtes, si vous n'avez pas été, venez à nos conférences, ça vous apprendra si vous n'êtes pas venu. Mais en tout cas, ne ratez pas le cycle prochain qu'on vous présentera lors d'une prochaine émission.
Tout à fait, il faut quand même rappeler que c'était une conférence, c'était pas la dernière du cycle en fait, c'était la dernière du cycle, c'était celle de Françoise Swager. Et celle-ci, étant donné que le break est très difficile à programmer à plusieurs mois à l'avance, que justement, il est très occupé.
Aux États-Unis.
Il y a beaucoup de réunions, donc en fait on l'a programmé hors cycle, donc là en fait c'est la fin des conférences de l'année, et en fait les prochaines conférences vont commencer en octobre à peu près, c'est ça ?
Le 12 octobre, pour être précis, donc on verra, je vous dirai qui,
on en parlera
parce que sinon ça m'entraîne à vous présenter le cycle, et on a notre temps, mais enfin ce que je peux vous dire c'est que ça sortira, la plaquette sortira maintenant, pour une fois on est un petit peu en avance par rapport aux autres années, on sortira ça avant l'été, mais on tombera pas dans la bêtise qu'on voit dans tous les programmeurs ou programmateurs, je ne sais pas comment on dit, qui sortent leurs plaquettes de plus en plus tôt. Alors vous avez des théâtres maintenant qui sortent leur cycle en février. Alors je vois pas si les gens vont s'abonner un an d'avance. Tout ça, c'est pour être avant tous les autres.
Voilà.
Alors nous, on vient après tout ça, et puis on dit aux gens, vous prendrez vos abonnements aux différents théâtres et aux autres spectacles quand vous aurez vu notre plaquette.
Voilà. Donc il va y avoir une dizaine de conférences, donc vous en parlerez dans d'autres émissions, avec des gens qui sont jamais venus, la majorité en fait. Il y a quelques conférenciers.
Oui, ça va être cette année, c'était très nouveau. Là.
Cette année, c'était les 30 ans de la SAN, donc on a fait revenir que des gens éminents et surtout qui étaient déjà venus aux conférences. Donc là, ça va être beaucoup de nouveaux, et apparemment, il va y avoir encore du beau peuple. Comme
des nouveaux, mais quand même des gens dont on est à peu près sûr de la qualité, bien entendu.
Tout à fait. Mais
tous ces gens-là se connaissent. Donc on vous en parlera, et vous verrez, ça va être assez très riche.
La conférence qui a eu lieu le 6 juin, mercredi dernier.
André Baric. Alors maintenant, je vais vous parler du colloque qui a eu lieu ce week-end, pour être précis, vendredi et samedi. Donc c'était un colloque sur les observatoires français. Au sens large, c'est-à-dire qu'on a parlé des observatoires de Paris, de Toulouse, de Marseille, de Bordeaux, et bien entendu de l'observatoire de Nantes, dont on vous parlera à la fin de cette petite chronique.
Il faut quand même rappeler que c'est organisé par le centre François Viette.
Bien sûr, ça, j'allais y venir, c'est organisé par notre ami Jacques Gapaillard, qui anime le centre François Viette. François Viette qui était un mathématicien vendéen. Qui du XVIIe siècle, et ils ont eu l'idée donc de réunir un certain nombre pas d'historiens des sciences, il s'agit d'astronomes passionnés par l'histoire des sciences, enfin par l'histoire de l'astronomie, et notamment les observatoires français. Vous savez que la France c'est toujours un des grands pays scientifiques en astronomie, donc, et ça date de à peu près l'époque de Louis XIV, XVIIe siècle, et tous les grands observatoires ont une histoire à raconter. L'observatoire de Marseille, moi j'ai redécouvert l'observatoire de Marseille, qui a été un des premiers, on peut le dire, au monde à une certaine époque. L'observatoire de Toulouse, l'observatoire de Bordeaux, Paris, bien entendu. Et
il y aura une conférence d'ailleurs l'année prochaine sur l'observatoire de Paris.
Il y aura une conférence sur l'observatoire de Paris et une autre sur l'observatoire de Nantes. Ouais. Moi j'ai parlé aussi un peu de l'observatoire de Strasbourg. Parce que effectivement, alors ce qui était très étonnant, c'est que quelqu'un avait dit, donc Suzanne Desbarba était là, et puis c'est une très ancienne de la SAF, elle a dit effectivement Strasbourg était un des grands observatoires, tout simplement parce que je me suis fait raconter que après, quand les Allemands sont partis, eh bien les Français ont nommé les plus grosses têtes en astronomie à Strasbourg, pour redorer le blason de la France. Et puis, quand elle s'est informée plus loin, on lui a dit, mais les Allemands avaient fait pareil. Et c'est pour ça que, à Strasbourg, vous avez André Danjon, vous avez Fernbach, vous avez vraiment une astronomie extrêmement forte, dont on voit aujourd'hui encore Agnès Acquer. Enfin, c'est vraiment une grande école. Voilà. Alors, ce colloque, donc, on y a parlé. Alors, il y avait du beau linge, comme on dit familièrement.
Voilà.
Il y avait, à part Suzanne Desbarba, il y avait le directeur de l'observatoire de Bordeaux, il y avait des gens de l'observatoire de
Marseille. Donc, c'était ouvert au grand public, on en a déjà parlé dans les émissions précédentes.
C'était ouvert, mais c'était sur inscription, c'est un congrès. On était une cinquantaine, ce qui est peu, mais qui est pas mal pour un congrès. Pour une première, une première version, et surtout pour un sujet aussi spécialisé. Mais je dois dire, j'ai entendu des choses absolument fabuleuses. C'était vraiment des gens extrêmement érudits, intéressants. Alors bien sûr, on ne peut pas terminer ce paragraphe sans parler. Donc,
d'un observatoire qui est peu connu, même quasiment inconnu. Pourtant, il
l'était il n'y a pas si longtemps, et donc ça c'est issu du travail d'Olivier Sauzereau sur les observatoires nantais, et il a exhumé avec force archives, etc. Il a réussi à retrouver l'observatoire de l'école d'hydrographie de la marine, qui était fort important à son époque, donc au début du 19e siècle, tout au long du 19e siècle, et dans lequel, en 1884, fut logée, bien sûr, la première société astronomique de Nantes. Alors, bien sûr, ça nous tient particulièrement à cœur, mais on vous racontera ça à une émission également, et ça fera l'objet d'une conférence d'Olivier Sauzereau au mois de janvier, mais il parlera de tous les observatoires nantais, parce qu'il y en a eu plusieurs. Et alors, il y a eu même une guerre des observatoires, enfin, c'est vraiment... Alors ça, c'est lié, bien sûr, à l'activité portuaire de Nantes. C'est vraiment lié
dans le passé, en fait, il fallait régler les chronomètres et puis toutes
les mesures. Voilà, il fallait les régler avec les méridiens.
Voilà, et en fait, bah, le mieux, c'est de les régler au moment où les régler l'endroit où partaient les bateaux. Donc, en fait, à Nantes,
il fallait les envoyer à Paris.
Voilà. Il aurait fallu les envoyer à Paris. Donc, c'est vrai qu'au niveau astronomique, ça a été très prolifique. Et puis maintenant, s'il y a encore, puisqu'il y a la SAN.
Ah, mais voilà, parce que, il faut le dire, bien sûr. Alors, dernière petite nouvelle, l'observation du 2 juin de la Lune avec notre ami Frédéric, ici présent du Planétarium. Comme nous sommes en partenariat, le Planétarium, la Société d'Astronomie, avec le Muséum d'Histoire Naturelle, dans le cadre de l'exposition sur les météorites, nous avions programmé une observation de la Lune une fois par mois. La dernière, c'était samedi 2 juin. Alors, ça a été encore une fois une grosse déception.
On n'a pas programmé, c'est les nuages.
Ces nuages sont
invités.
Ils sont invités, puis alors ils ont squatté, comme on dit. Hein.
Ils sont restés. Ben.
Donc, ça n'a pas été possible.
Voilà, on avait quand même sorti les instruments, là, puis on avait quelques personnes. Alors, on en profitait pour expliquer dans le Square Moisan les cadrans solaires. Comment
ils marchent pour le soleil. Dans le Square Moisan, on n'en parle pas assez. Le Planétarium, il faut y aller. Mais c'est vrai qu'à la rigueur, s'il n'y a plus de place, bah, le temps d'attendre notre séance, vous allez derrière. Il y a un square, où notamment il y a un cadran solaire, et puis il y a plein de petites.
Je préciserai quand même que pour les personnes qui voudraient aller au Planétarium, le Planétarium est fermé pour raison de travaux jusqu'au 15 août.
J'ai cru que tu allais dire pour raison de santé.
Voilà. Il est en rénovation.
Voilà. C'est vrai. Il s'agrandit. On lui ajoute un bureau et non pas des toilettes. Il y en a déjà, hein, je crois.
Oui, oui.
Les gens ne faisaient pas pipi quand même sous la coupole. Hein.
Bon, c'est. Non, il faut pas hésiter à les
voir. Et il rouvre quand, en fait,
si tu l'as dit ?
15 août. Le 15 août.
Voilà. Non, le 16, en fait. Hein.
Pour être précis.
Il est fermé jusqu'au 15. Fermé jusqu'au 15.
Et puis ouvrir le 15.
Ça vaut mieux être précis. Non, mais il pourrait être ouvert un jour férié.
Oui, oui. Oui. Ouais.
Tout à fait. Là, ça arrive d'ailleurs.
Oui, tout à fait.
Voilà pour ces nouvelles, à moins que vous en ayez d'autres.
Non, je pense pas, on en a déjà parlé pas mal. On aura quelques actus tout à l'heure et puis pas mal de petites choses.
Bien, eh ben alors cette fois-ci, on va inverser un petit peu. Maintenant, c'est moi qui vais présenter notre prochaine séquence, les actus astro.
Non, non, c'est le ciel du mois.
Ah, bon, voilà, ça c'est... On vous a dit que c'était en direct. Hein.
Ouais, mais ça se voit, comme d'habitude.
Je pourrais lire tes notes d'ailleurs, Thierry. Donc, je recommence.
Vas-y. Eh
bien, nous avons le plaisir. Maintenant, nous allons vous parler du ciel de ce mois avec Thierry. Alors, mon cher Thierry, qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête ce mois-ci? Qu'est-ce qui est accroché encore dans le ciel? Et qu'est-ce qu'on peut voir, surtout?
Pour l'instant, il y a les nuages. On va espérer qu'ils partent. On a eu la chance d'avoir un mois de mai assez dégagé, on va dire. Ça faisait du bien aux observateurs de pouvoir ressortir les instruments. C'est vrai que là, le problème, c'est qu'il y a eu quelques nuages à certains moments. Mais il y a quand même des phénomènes au-dessus des nuages. Donc, quand ils n'y sont pas, on va quand même en parler rapidement. Il y a quand même le phénomène important, c'est Mars qui arrive. Donc, si vous avez la chance de l'observer, il faut pouvoir la regarder le mieux.
Vers le sud, en fait.
Vers le sud, et le mieux, quand même, c'est de la voir.
Elle passe pas inaperçue. Hein.
Extrêmement
brillante.
Ouais, pour ceux qui ont,
qui ont
bu un peu, si vous voyez une espèce d'objet orangé dans le ciel, c'est Mars.
Et c'est pas un ovni.
Donc c'est pas peine de nous appeler pour regarder si c'est un ovni, c'est Mars. Donc faut voir soit avec un instrument, le mieux, parce qu'à l'œil nu, vous verrez qu'une grosse étoile orangée.
Oui, on a l'impression d'ailleurs que c'est une étoile, comme l'a dit Frédéric. D'ailleurs, c'est général, les planètes, quand on connaît pas, on dit toujours, tiens, c'est quoi cette grosse étoile? Alors subtilement, on peut dire, oui, une étoile, ça scintille, une planète, ça scintille pas. Ça, c'est vrai. Quand les étoiles sont loin au-dessus de notre tête, mais quand elles sont presque à l'horizon, tout scintille un petit peu, hein, même un lampadaire. Donc, en fait, ça se reconnaît surtout parce que c'est très très lumineux, quoi.
Ouais, elle est vraiment très très brillante, basse sur l'horizon.
Et un peu jaune, non?
Un petit
orange.
Peu orangé, mais comme elle est très très brillante, là, la couleur peut-être t'apparaît pas trop. Un petit peu rose, rose saumon.
Elle n'est pas blanche, on voit vraiment qu'elle n'est pas blanche.
Ah oui, elle n'est pas blanche. Oui, ça c'est clair. Oui. Ah, bien sûr, instrument, si vous prenez des jumelles, vous ne verrez pas grand-chose de plus. Par contre, si vous avez une
lunette... L'idéal, c'est un télescope, quand même.
Ouais,
une lunette à télescope.
Lunette, ouais, une lunette, c'est déjà 60 mm. Voilà. Et un télescope de 100 mm, 115 mm. 115,
ouais. Alors, c'est pas la longueur, hein, c'est le diamètre. Quand
c'est même. Le diamètre du miroir. Diamètre du miroir. Autrement, il y a une petite chose importante, mais moi, je pense pas qu'il y aura grand monde qui va aller voir. Il y a Pluton.
Ah, faut savoir où il est.
Faut savoir que Pluton a été découverte en 1930. Ouais. C'est pour vous dire le temps qu'on a mis à la trouver. Donc, ça veut dire qu'en fait, elle est pas
par
Clyde Tombaugh.
Oui,
c'est ça, 1930, un Américain.
Qui est mort
il y a 4-5 ans.
Longtemps, ouais.
Ou un peu moins. Ouais. Donc un Américain, donc il avait découvert Pluton en fait en faisant en inversant les images, c'est-à-dire en fait il classait des étoiles dans un observatoire et puis en fait il avait un travail entre guillemets qu'on pourrait considérer ingrat et puis en fait ils mettent deux photos astronomiques et puis
ils font le jeu des sept erreurs voilà. En fait ils regardent s'il n'y a pas un truc qui bouge plus que les étoiles, donc c'est soit une comète, soit une météorite, soit une planète qu'on connaîtrait pas, et ça c'est ce qui est arrivé.
Donc on a quand même autrement en plus de donc Pluton très difficile à voir.
Ah oui, Pluton, il faut un télescope quasiment semi-professionnel.
Ouais.
C'est très très décevant, c'est un tout petit point de magnitude 13 ou 14.
C'est-à-dire que c'est vraiment très très, 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 très
peu lumineux.
Ouais. Et entre guillemets intéressant, parce qu'on voit juste un point. Donc, à part le plaisir de dire j'ai vu Pluton.
Voilà.
Et encore, il faut en être sûr.
C'est ça le problème.
On peut toujours le dire. Hein.
Tout à fait. Autrement, il y a quand même un Mercure qui va arriver, donc il y a beaucoup d'astronomes amateurs qui l'ont pas vu Mercure, puisqu'en fait elle est très, elle est très difficile à voir, puisqu'en fait elle est très proche du Soleil.
Donc elle est noyée dans les lueurs du couchant.
Voilà. Donc en fait, si elle est trop proche du Soleil au niveau de sa rotation, on la voit pas. Et donc en fait, il faut vraiment qu'elle soit dans la partie la plus éloignée pour pouvoir l'apercevoir.
En fait, Mercure, on peut quand même la voir depuis que j'habite au 6e, depuis quelques années, je la vois régulièrement, mais il faut avoir un horizon dégagé. Et autrement, on la voit, c'est pas très brillant, mais il faut, comme elle se déplace très vite dans le ciel, de 3-4 jours à un peu moins d'une semaine, elle bouge beaucoup. Et il faut vraiment, ça se joue sur une semaine, 15 jours. Il faut vraiment connaître les bons créneaux, et on arrive encore à la voir, mais elle est souvent basse sur l'horizon, perdue dans les lueurs, soit de l'aurore, soit du crépuscule. Il vaut mieux la voir le soir, c'est plus confortable.
Et ça ressemble à quoi ?
C'est une étoile, c'est un point, nettement moins brillant que Vénus. C'est un point souvent qui scintille un petit peu. Et faut pas la chercher trop tôt, sinon elle est perdue dans les lumières du soleil. Ni trop tard, sinon elle est déjà couchée. Donc ça reste quand même relativement difficile, mais pas impossible. Il faut avoir un horizon dégagé. Il faut vraiment, comme elle est toujours basse sur l'horizon, 10 degrés, 15 degrés, rarement au-dessus.
Mais si on habite au 7e, ça marche aussi.
Voilà, absolument.
Non, mais c'est vrai qu'en plus, faut penser que quand on observe, des fois, on dit tiens, on va aller voir telle planète, et quand vous avez commencé votre nuit d'observation, c'est déjà trop tard, puisqu'en fait, Mercure a déjà disparu.
Ah oui, oui.
Il faut vraiment penser à l'observer.
Ah, c'est le soir,
Voilà, il faut vraiment penser à l'observer. Pour la voir, quoi. Par rapport à Mars, ou la guerre, quelqu'un qui va pas savoir que Mars se lève, il va pouvoir la découvrir. Continuons dans les planètes, Jupiter, vous pouvez toujours la chercher.
On va rappeler juste à propos de Mars, excusez-moi, que elle est actuellement pratiquement au plus près de la Terre, en opposition.
Elle va passer en opposition, c'est-à-dire au plus près, le 21 juin.
Le 21, oui.
À 65 millions de kilomètres.
Ouais. C'est tout près pour Mars. Hein.
Depuis 98 qu'on n'a pas un rapprochement aussi important.
Elle se rapproche de la Terre tous les 2 ans.
Voilà, à peu près.
Et les rapprochements, là, sont, depuis quelques années, de plus en plus intéressants. Et là, c'est une des plus belles oppositions. C'est vraiment le moment pour observer Mars.
Le seul problème, c'est qu'elle est un peu basse sur l'horizon.
Voilà.
Elle monte à 20 ou 23 degrés.
Très basse sur l'horizon.
C'est assez...
En plus, c'est l'été. Alors, c'est la saison des brumes.
Ben voilà. Et puis, en plus,
il faudrait être dans l'hémisphère sud pour la voir. Là, elle sera au zénith.
Mais malheureusement, plus ça, Alternante n'est pas diffusée dans l'hémisphère sud.
C'est bien dommage. Qu'est-ce qu'ils perdent?
Oui. Bon, on va écrire au président d'Alternante, hein, on va lui dire, pensez à mettre un émetteur dans l'hémisphère sud. Autrement, donc Jupiter, inobservable. Saturne, elle n'est pas géniale, pour résumer.
On ne la voit pas.
En plus, elle est inobservable, je crois.
Derrière le Soleil, comme Jupiter.
On ne la voit pas. Puis Uranus, Neptune, on n'en parle pas.
On voit bien Vénus.
Alors par contre, j'allais finir par une planète qui est belle, donc il y a Mars et Vénus.
Vénus
est en phase. Et en fait, le matin, quand vous voulez.
C'est-à-dire que c'est un croissant, on voit des croissants.
Voilà, on voit les croissants de Vénus.
Le matin.
Ah, c'est ça qui est bien. Pendant que vous mangez le vôtre, hop, vous en prenez un autre. Et c'est vrai qu'on a quand même la chance d'avoir la fameuse étoile du Berger, puisque c'est la première qui se lève, qui s'appelle une, l'étoile du Berger, hein, en fait, qui est une planète, qui est Vénus.
Et non pas les poils du Berger, pardon.
Les poils, oh là là, ça repartit. Ça se voit que c'est en direct, comme on dit.
Ça touche terre, les poils du Berger.
Oui, oui aussi, oui. C'est vrai que là, ça touche terre. Donc là, c'est vrai qu'il y a Vénus.
Il y a Castor et Pollux. Lui aussi, Pollux, il avait des poils qui touchaient terre. Je me souviens quand j'étais petit.
Ah
tu,
bon?
Tu n'étais pas né.
Si, 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 mais oui, dans le Ménage Enchanté.
Oh, quelle culture! Chers amis, vous êtes en direct. Radio culturelle.
Donc, la petite chose importante, quand même, qui va finir pour juillet, ça va être normalement la comète linéaire qui devrait venir.
Tout droit.
Normalement, elle est pour l'instant dans l'hémisphère sud. Mais elle est dans l'hémisphère sud, on la voit dans l'hémisphère sud. Et elle serait pointée son nez dans le, au mois de juillet au niveau de l'hémisphère nord. Donc, on devrait pouvoir la voir. Elle est assez visible. Elle est visible à l'œil nu dans l'hémisphère sud actuellement.
Elle
donc,
monte en éclat.
Hein. Voilà. Donc, on devrait bientôt la voir. Sauf si, on ne sait jamais. C'est vrai que les comètes, le problème, c'est que ce n'est pas une science exacte, parce qu'en fait, ils prédisent qu'elle va se rapprocher. Donc, en fait, elle va être très lumineuse, et des fois, ce n'est pas lumineux, inversement. Donc,
oui, ça dépend de la composition, et on a du mal. Et les comètes lumineuses, c'est celles qui comportent beaucoup de vapeur d'eau. Et ça, de loin, on ne sait pas toujours. Hein. Ça a été le cas, la déception, il y en a eu deux ou trois, c'est ça récemment. Et il y a eu aussi d'heureuses surprises, par exemple. La dernière
Albop
a été exceptionnellement lumineuse.
Il faut aussi se méfier.
Plus qu'on pensait.
Certains annoncent des éclats relativement importants, mais il s'agit d'objets nébuleux. Donc l'éclat est très dilué en fait sur une surface. Sur une surface oui, du ciel assez importante. Donc, quand on voit dans les revues les éphémérides. L'éclat de certaines comètes peuvent vous paraître brillantes, mais en réalité, sur le ciel, comme ce seront des objets étendus, nébuleux, il faudra vraiment avoir un ciel très noir, très pur, sans lune, pour l'avoir.
Voilà. C'est comme si on étalait l'éclat d'une étoile sur la taille d'une comète, hein, qui fait à peu près la taille de la Lune, la nébulosité.
Hein. Oui.
C'est vrai que c'est assez important. Donc, pensez, c'est plein sud, c'est proche au-dessus du Scorpion pour Mars et Pluton, puis Vénus à côté du Soleil, hein, c'est pas... À coucher du coup.
Pas difficile à trouver ça.
C'est le matin, on suffit de dire traitement. La Lune, vous pouvez toujours l'observer. Là, c'est pas entre guillemets génial puisqu'elle est en phase pour devenir en dernier quartier. Mais par contre, pour les observations, ça va être plutôt fin juin quand la Lune va être nouvelle. Toute nouvelle. Voilà, Daniel.
Voilà, merci mon cher Thierry. Alors, n'hésitez pas à lever le nez et emmener peut-être des choses. Si vous allez passer des nuits galantes, n'oubliez jamais un instrument d'astronomie. Ça peut remplir les heures creuses des fastes de l'amour. Voilà.
Tout à fait.
Merci mon cher Thierry. Eh bien, nous allons passer maintenant à la séquence suivante. Ça va être notre grand thème de ce soir, c'est-à-dire le soleil, l'interview de Jean-Paul Zanne. Voilà.
Tout à fait, donc nous allons aborder maintenant, je reprends la parole, comme on dit, nous allons aborder la suite de l'émission avec, c'est une partie importante, comme l'a dit Daniel, la conférence de Jean-Paul Zanne, que Daniel va nous parler. Donc ça va se découper entre guillemets en deux grandes parties, cette grosse partie de l'émission, sur le soleil. On va avoir une partie, en fait, on va vous présenter la conférence et surtout, on va vous passer l'interview qui a été réalisée par les adhérents de la SAN de Jean-Paul Zanne. Et après, on vous expliquera un peu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire sur le soleil. On a prévu un peu de temps. Donc, on va essayer de dire plein de choses en très peu de temps. C'est un peu difficile, comme d'habitude. Donc là, on va commencer par nous présenter un peu qui est ce fameux Jean-Paul Zanne et puis quand est-ce qu'il est venu.
Alors, Jean-Paul Zanne n'est pas venu pour la première fois en janvier. On était déjà venu une reprise avant par les étoiles doubles. Non, deux fois. Par les étoiles doubles et la fois d'avant, il a parlé du Soleil. Car le Soleil, c'est vraiment sa grande spécialité. Hein. C'est un astrophysicien, Jean-Paul Zanne. Il a été directeur de l'Observatoire du Pic du Midi ainsi que de l'Observatoire de Nice. Et c'est un astronome de renom, très renommé. Et c'est maintenant le mari de Suzy Collin, d'ailleurs, qui est une autre astrophysicienne absolument...
Dont on a parlé dans l'émission précédente.
Voilà.
L'émission d'avant, en plus.
Qui a parlé du trou noir au cœur de la galaxie,
tout à fait. Hein,
tout simplement. Alors, ce Jean-Paul Zanne, juste pour la petite histoire aussi, moi, ça me touche un peu plus près, c'est un Alsacien.
Ah.
Et il fait partie de la famille d'Audouin Dollfus, qui est cet astronome, astronome. Son père était Charles Dollfus, hein, qui était le fameux aéronaute Charles Dollfuss, que connaissent certains, et son fils Audouin Dollfuss, c'est donc un très grand astronome. Il a eu son jubilé, ses 50 ans, là, il y a un ou deux ans.
Il est venu à la Seine.
Il est venu à la Seine raconter l'histoire de l'Observatoire de Meudon. Et c'est là aussi que j'ai appris que ce Audouin Dollfuss est issu de cette grande famille alsacienne, Dollfuss-Mig. Et tout le monde connaît les fils de toutes les couleurs, les fils DMC qui servent à faire des... Ah, on s'appelle là, des canevas
et des broderies. Là,
c'est la famille d'Audouin Dollfuss et de Jean-Paul Zanne. Voilà, hein, de l'astronomie.
Mais c'est la reine des sciences, donc on arrive à toucher à tout.
On arrive à toucher à tout, voilà, donc c'est un...
Par contre, je savais pas qu'on allait jusqu'au canevas, ça, ça va.
Donc c'est un homme, lui aussi, un homme extrêmement intéressant.
C'est lui qui a observé Dollfuss dans un ballon, justement, avec une lunette.
Alors, si on parle d'Audouin Dollfuss, on va juste dire ça, parce que c'est quand même le clou. Il est pour détecter la vapeur d'eau sur Mars, et pour pas être embêté par la vapeur d'eau de l'atmosphère terrestre.
Il s'est élevé
dans les airs avec un ballon. Alors, il a fait deux tentatives, une, je crois, 2 ou 3 000 mètres, et l'autre à 6 000 mètres, ou même 8 000, je n'ai pas les chiffres exacts, enfin, très très haut, enfin, au moins 6 000. Hein. Alors évidemment, il est la deuxième fois, oui, vas-y.
On parlera tout à l'heure du Soleil, et c'est un des premiers à avoir obtenu des images détaillées de la granulation solaire à bord d'un ballon.
C'est la folie, en fait, parce que sur Terre, on essaie d'avoir un truc stable, etc. Et
puis, lui, il a mis son télescope dans sa corbeille, là, dans sa nacelle. Alors, le plus drôle, on vous racontera ça en détail, c'est trop marrant. Et pour descendre, vous savez ce qu'il a fait? Il avait un fusil à 22 long rifle. Et comme il est monté avec des ballons sondes, il avait 500 ballons sondes pour le faire monter à 8000 mètres. Et puis, pour descendre, il tirait dans ses ballons un à un pour descendre tout doucement.
Petit à petit.
Enfin, c'est absolument ahurissant. Enfin, c'est un type étonnant. Donc, on va vous en parler une autre fois. Alors là, revenons à Jean-Paul Zanne, qui est donc ce grand spécialiste du Soleil, qui est venu le samedi 27 janvier dernier.
Lors de la semaine de l'astronomie.
Voilà, pour clore et non pas clôturer, comme disent les andouilles.
Sauf Frédéric. Enfin, pas celui qui est là, mais...
Sauf Frédéric Brion, voilà. Qui n'est pas une andouille.
Voilà. Voilà. Qui emploie le mot clôturé.
Voilà. Et voilà, qui emploie ce mot qu'on entend partout, bêtement. Voilà. Alors, il a, à cette occasion, il a parlé effectivement l'événement, c'est un peu le nombre de taches solaires dont Frédéric parlera sans doute, hein, qui est assez en recrudescence. Et il y a aussi, il a parlé des éruptions, il a surtout parlé des nouvelles méthodes d'héliosismologie. C'est-à-dire, quand on veut étudier l'intérieur de la Terre, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait exploser des petites charges à la surface et on étudie la façon dont elles se transmettent à l'intérieur. Et ainsi, on sait s'il y a des couches dures, des couches de roche, des liquides, etc. Et ben, on fait pareil pour le Soleil. C'est de la sismologie, c'est de l'héliosismologie, puisqu'il s'agit du Soleil. Donc, je crois qu'on va écouter cette interview, et puis on interviendra un petit peu entre, on verra, et puis après, on explorera, on détaillera, on développera un peu.
Le titre de votre conférence, Jean-Paul Zanne, c'est « Le Soleil au maximum d'activité ». Alors, si on se tourne vers le Soleil, au maximum d'activité, c'est-à-dire que le Soleil, il est actif, alors que nous, tous les jours, on le voit quand même... Enfin, quand on arrive à le voir, on le voit à peu près toujours de la même façon. Au maximum d'activité, ça veut dire quoi au juste?
Eh bien, on connaît le cycle d'activité du Soleil en regardant sa surface. Il y a des taches en général, et il y en a plus ou moins. Et quand il est à son maximum, c'est là qu'il y a le plus de taches. Effectivement, comme vous dites, l'homme de la rue, ça n'aperçoit pas du tout. On peut voir des taches à l'œil nu, hein, en prenant des précautions, hein, des lunettes de soudeur, par exemple, ou celles qu'on a achetées pour regarder la dernière éclipse. Mais c'est un phénomène, finalement, assez faible et qui a relativement peu de conséquences. Il nous intéresse beaucoup parce que notre durée de vie à nous, elle est d'une soixantaine, de 80 ans, et donc un cycle d'activité de 10 ou 11 ans, on peut l'observer plusieurs fois dans notre vie, alors que le Soleil évolue sur des échelles de temps qui sont beaucoup plus longues, des millions, voire des milliards d'années, et ça nous dépasse complètement. Donc notre intérêt pour l'activité solaire, c'est surtout parce que c'est un cycle qui se produit dans un temps que nous arrivons à maîtriser en tant qu'homme. Et naturellement, c'est accompagné d'un tas de phénomènes qui sont spectaculaires et qui ont une certaine influence sur la Terre, quand même, il faut le dire.
Alors, on va peut-être, on n'aurait pas besoin, on va rappeler quand même que le Soleil est une étoile. Alors, on a la chance, effectivement, que cette étoile soit relativement proche, et d'ailleurs la seule dont on peut voir un diamètre apparent assez important, hein, mais peut-être d'ici quelques années, avec les progrès de l'interférométrie, on aura des diamètres apparents pour des étoiles également. Alors l'intérêt du Soleil, bien sûr, c'est de nous voir de près le fonctionnement d'une étoile, et aussi, est-ce que cette... On a dit souvent, le Soleil, il y en a même qui ont dit, le Soleil est presque une étoile variable, parce qu'il y a une variation d'activité. Mais est-ce que c'est dû... Est-ce que le Soleil serait une étoile variable si on l'observait à la même échelle que les autres étoiles, c'est-à-dire très très loin, ou est-ce que c'est simplement parce qu'il est près que l'on observe ces variations, et quel est l'intérêt d'observer ces variations, justement ?
Bon, il y a des étoiles comme le Soleil qu'on observe et que l'on voit actives. Quand le Soleil était très jeune, son cycle d'activité était beaucoup plus prononcé. Hein. Il y avait beaucoup plus d'énergie qui était émise dans le cycle d'activité. C'est quand il s'est mis à ralentir, parce qu'il tournait relativement vite au départ, il faisait peut-être un tour en un jour, et maintenant il lui faut à peu près un mois pour faire un tour.
Il y a beaucoup de gens qui ignorent d'ailleurs que le Soleil tourne sur lui-même. Hein. Ça, c'est marrant à rappeler aussi.
C'est vrai.
Comme la Terre.
Et ça, on s'en aperçoit en suivant les tâches, hein, de jour en jour. C'est comme ça qu'on s'est aperçu que le Soleil tourne.
Oui, oui.
Et d'ailleurs, de manière assez curieuse, parce qu'il ne tourne pas de manière uniforme. L'équateur tourne plus vite que les pôles, ce qui est
étrange.
Oui, un
peu comme Jupiter, un peu, comme, oui. Puisque c'était des masses fluides, le Soleil.
C'est des masses fluides. Voilà, c'est la preuve que c'est une masse fluide.
Oui,
Il y a des étoiles qui varient comme le Soleil, et avec les instruments qu'on a maintenant, on pourrait détecter l'activité du Soleil si c'était sur une étoile. S'il y a des êtres intelligents quelque part qui regardent le Soleil, ils pourraient détecter, mais vraiment à la marge et à la limite, l'activité du Soleil.
Donc en fait, le Soleil n'est pas une étoile si constante que cela.
Non.
Et de cela est née une nouvelle branche de l'astronomie qu'on appelle l'héliosismologie, c'est cela ?
Oui, alors ça c'est une autre affaire, ça,
oui.
Effectivement, parce que le Soleil...
Là c'est plus la surface hein, qu'on investigue, mais
c'est à la surface que l'on observe des oscillations, effectivement, qui sont des ondes acoustiques, des ondes sonores. Donc, et ces ondes sonores, elles se propagent à l'intérieur du Soleil, et en observant ces ondes, et en déterminant leur fréquence, parce qu'il y a des fréquences qui sont tout à fait bien définies, on arrive à avoir une information sur l'intérieur du Soleil.
D'accord.
Comme c'est des ondes acoustiques, ces ondes nous renseignent sur la vitesse du son à l'intérieur du Soleil, la manière dont elle augmente avec la profondeur.
Un petit peu comme sur Terre, avec les ondes sismiques, on arrive
tout
à connaître...
Tout à fait, c'est pour ça qu'on appelait ça de la sismologie. Et donc c'est grâce à ça qu'on connaît maintenant la structure du Soleil avec une précision qui est meilleure que le pourcent. C'est même meilleur que le pour mille maintenant.
C'est aussi bon que sur Terre, finalement.
C'est meilleur.
Ah oui, c'est souvent comme ça en astronomie, d'ailleurs.
Ouais.
D'ailleurs, on connaît bien mieux les choses que les systèmes solaires externes. Quand on en aura beaucoup, on connaîtra mieux le nôtre. Enfin, tout est un peu
tout
comme
à fait,
ça en science.
Tout à fait.
On connaît mieux les autres que soi-même.
Oui, voilà. Et Sylvie Vauclair parlait d'un soleil qui résonnait un peu comme une cloche, à cause de ces différentes couches de nature différente.
C'est tout à fait ça, oui.
C'est une vraie cacophonie à l'intérieur du Soleil.
Alors si on pouvait écouter ça, mais évidemment, ces ondes acoustiques, qui sont des ondes sonores, hein,
oui.
Ne se propagent pas dans le vide.
Voilà.
Sinon, on entendrait la cacophonie du Soleil et il faudrait se boucher les oreilles.
Il y en a qui parlent de symphonie, et puis voilà, on ne sait pas, c'est un peu chaotique tout ça.
Voilà, alors, vous venez d'entendre l'interview de Jean-Paul Zahn, c'est pas terminé, il y en a encore deux autres morceaux.
Un autre morceau,
bien. Et les intervieweurs étaient nos amis Stéphane Lega et Gaël Vincent, rappelons-le, hein, c'était donc le 27 janvier dernier. Alors il y a une petite, on parle de tâches solaires, on parle d'étoiles variables pour le Soleil, c'est un peu exagéré, mais c'est vrai que le Soleil a un cycle d'activité, c'est pas une étoile statique, hein, il se passe plein de choses. Alors on peut peut-être rappeler, Frédéric, ce que c'est qu'une tâche solaire, rapidement.
Oui. On en parlera tout à l'heure.
Ben, je dirais qu'on sait pas.
C'est ça qui est génial. C'est la réponse.
c'est une zone du Soleil plus froide.
Plus froide et donc plus
sombre. C'est une région du Soleil plus froide, donc qui émet moins de rayonnement, plus sombre, qui est liée à des champs magnétiques extrêmement puissants.
Voilà.
Et elles ont des durées de vie de quelques jours, quelques semaines, quelquefois que
voilà,
quelques semaines.
Puis ils ont un cycle et c'est grâce à ça que le Soleil tourne. Bon, on en parlera plus en détail peut-être tout à l'heure justement de ces tâches. Et l'héliosismologie dont on a parlé tout à l'heure, effectivement, c'est... Alors là, on ne fait pas exploser de charge à la surface du Soleil, on regarde les, hein, c'est ça, on regarde les vibrations, on analyse les fréquences.
Oui, le Soleil est très agité, il fait énormément de bruit, et ce bruit se transmet dans les différentes couches du Soleil, et ça crée des quantités d'ondes qui s'entrechoquent, qui sont
une véritable cacophonie.
Ah oui, complètement. Et de cette cacophonie, on arrive à en tirer des quantités de renseignements.
Sylvie Vauclair avait fait la chanson du soleil lors d'une conférence.
En fait, c'est les ondes sonores qui se propagent au niveau du soleil. Bon, bien sûr, une fois qu'elles arrivent dans le vide spatial, ça, c'est plus des ondes sonores. Mais c'est vrai que c'est, si on...
Ah là, elle s'arrête.
Voilà, elle s'arrête. N'existe plus. Elle n'existe plus parce que le son pour se propager a besoin d'un, d'un propagateur,
d'un fluide.
D'un fluide, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on l'avait appelé sa conférence les chansons du soleil.
En fait, si on trempait notre oreille dans le soleil, on l'entendrait.
Mais il y aurait chaud sur
il y a des... La difficulté, c'est qu'il y a des milliers de... d'ondes de fréquences différentes. Et il faut pouvoir les séparer, les dissocier. Et on y arrive.
On se croirait un orchestre au moment où ils s'accordent, tu vois.
C'est un peu ça.
Bon, nous allons écouter la suite maintenant de cette interview. Deuxième partie, l'interview de Jean-Paul Zahn, le 27 janvier dernier.
Trompe pas, vous avez été directeur du Pic du Midi, l'observateur du Pic du Midi.
Où l'on observe le soleil, naturellement.
Donc, voilà, donc vous avez utilisé donc, le coronographe du Pic du Midi. Alors le coronographe c'est bien, mais les éclipses de soleil c'est mieux pour étudier le soleil. Et notamment, une chose qui est troublante sur le soleil, c'est que sa couronne est beaucoup plus chaude que sa surface.
Oui.
Est-ce qu'on a des éléments de réponse ou est-ce que c'est encore le point d'interrogation?
Oui, alors effectivement, c'était quelque chose d'assez étrange. Hein. On sait depuis les années 30 à peu près que la couronne est beaucoup plus chaude que la surface du Soleil. La surface du Soleil, c'est 6000 degrés à peu près.
La couronne, on va rappeler, c'est ce qu'on voit lors d'une éclipse, oui. Lorsqu'il est totalement caché, le Soleil, tout d'un coup, on voit ce qu'on ne voit jamais sur le fond du ciel. Ouais. Et quand il est noir, on voit justement cette immense chevelure, on pourrait dire, enfin cette couronne, qui est deux ou trois fois le diamètre du Soleil d'ailleurs.
Oh, qui va beaucoup plus loin.
Qui va bien sûr beaucoup plus loin, mais c'est celle qu'on...
On peut dire qu'on est dans la couronne du Soleil. Hein,
voilà, oui, bien sûr.
Donc c'est en très très loin, effectivement. Et si on ne la voit pas en temps normal, c'est parce que la couronne est 1 million de fois moins lumineuse que le Soleil lui-même. Et avec le ciel qui est bleu, hein, et qui est lui aussi à une certaine intensité, on n'arrive pas à voir la couronne. Donc, vous l'avez dit, hein, il y a les éclipses. On peut observer la couronne. Il y a le coronographe où on occulte le disque du soleil avec un disque
dans l'instrument. Mais là, il vaut mieux aller en montagne pour que le ciel soit, comme on dit, coronal. C'est-à-dire qu'il soit tellement pur que même quand il est bleu, on distingue quand même la couronne.
Tout à fait. Ouais. Plus on monte haut, et moins il y a l'atmosphère au-dessus de nous, et naturellement, plus de couronne on voit.
Et donc, pourquoi est-ce qu'elle est plus chaude, cette couronne?
Alors, le problème, c'est d'identifier la source d'énergie. Hein. Quelque chose est chaud quand on le chauffe. Et ce qui chauffe la couronne, ben, on pourrait penser à la radiation, par exemple, du Soleil. Mais la radiation, à la surface du Soleil, est de 6000 degrés. Elle ne peut pas porter un corps à une température plus élevée. C'est contraire aux lois de la thermodynamique. Donc, il faut trouver autre chose. Alors, ce qu'on a trouvé, c'est que ce sont les ondes, les mêmes qu'on observe pour faire la sismologie, qui se propage dans la haute atmosphère du Soleil, et comme le milieu est de plus en plus raréfié, ces ondes finalement se transforment en chaleur et arrivent à chauffer ce milieu qui est très très ténu, qui a une densité extrêmement faible, et le porter à ces températures élevées qui sont de l'ordre du 1 million de degrés, 1 million, 2 millions de degrés. Alors, peut-être que le champ magnétique est associé à ça aussi. Et récemment, depuis qu'on a des satellites qui regardent le Soleil en permanence, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'énergie qui est catapultée dans la couronne aussi, sous forme d'éjection de matière. Donc, tout ça, ça contribue probablement à chauffer la couronne.
Quand on arrive à les retrouver, les satellites, quand on se fait des frayeurs, quand on les perd...
Exactement. Vous savez que le satellite Soho l'a perdu pendant 3 mois et c'était l'angoisse.
Une belle frayeur.
Alors, pour étudier le Soleil, qu'est-ce que vous avez comme outil, comme méthode?
Eh bien, justement, la méthode vraiment la plus récente pour sonder l'intérieur du Soleil, c'est la sismologie. Elle a révolutionné complètement la physique stellaire. Il y a beaucoup de gens qui se mettent nouveau à étudier le Soleil, qui l'avaient un petit peu abandonné parce qu'on s'était intéressé à des sujets plus intéressants, qui semblaient plus intéressants, comme la cosmologie ou les trous noirs, etc. Mais maintenant, le Soleil passionne de nouveau parce qu'on a de plus en plus de renseignements sur le Soleil. Grâce à la sismologie et grâce à l'observation en continu de la surface du Soleil dans toutes les radiations, et ça c'est possible grâce aux satellites qui sont destinés à la recherche solaire.
Alors donc le Soleil a un certain cycle qu'on détermine par ses tâches, et moi j'ai lu en fait des choses sur le rapport entre ce cycle du Soleil et puis, enfin, ou bien En fait, il n'a pas qu'un seul cycle, parce qu'a priori, il aurait beaucoup, enfin, il a des cycles beaucoup plus longs aussi, qui correspondraient à d'autres phénomènes, ça par contre, je ne sais pas trop, mais certains scientifiques ont émis l'hypothèse que le climat sur Terre avait une variation qui pouvait ressembler à certains cycles du Soleil. Est-ce qu'on a réussi à déterminer un rapport exact entre le climat terrestre et puis l'activité solaire?
On aimerait bien, hein, et ça a été effectivement recherché, donc on fait des corrélations, on essaie de voir. Il y a des gens aussi qui affirment que les grands vins de Bordeaux, ça suit à peu près le cycle solaire. Il n'y a rien de très bien établi encore là-dessus. C'est possible, hein. Encore que les énergies mises en jeu sont relativement faibles, et ce qui est affecté par l'activité solaire, c'est la très haute atmosphère. Hein. Ça crée des aurores boréales, ça change l'état de l'ionosphère. Ça modifie la propagation des ondes radioélectriques, des choses comme ça. L'impact direct sur le climat n'est pas établi pour le moment. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas, hein, à voir s'il y a un lien quelconque.
Alors, est-ce qu'il y a des risques, enfin, est-ce que cette rythmicité va être modifiée, va se modifier dans l'avenir, ou est-ce qu'on pense que ce sera toujours les mêmes rythmes dans la phase stable du Soleil?
On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que le Soleil, c'est arrêté de produire des taches, où on avait très très peu pendant 70 ans, et ça a coïncidé avec le siècle de Louis XIV. Donc pendant le règne du roi Soleil, il y avait moins de taches sur le Soleil. Est-ce qu'elles avaient peur du roi? J'en sais rien.
Il y a eu une mini-ère glaciaire à ce moment-là.
Oui, mais qui semble être confinée à l'Europe. Hein, pourquoi ça n'a pas affecté la Terre entière? Là encore une fois, c'est vrai qu'il faisait très très froid, il y a des hivers très froids en France pendant...
Mais ce n'est pas lié au Soleil, je crois. Jacques Lascar avait relié ça justement à l'axe de la Terre, aux variations chaotiques de l'axe, ouais, de la Terre, ouais, qui semble avoir peut-être beaucoup plus d'influence que les taches solaires. Mais comme on observe souvent les taches solaires et qu'on a beaucoup moins de connaissances sur ces rythmes dus à l'axe de la Terre, tous les rythmes liés au chaos, peut-être qu'on a attribué un peu hâtivement au Soleil ce qui est causé par d'autres facteurs. C'est possible, mais nous sommes bien sûr...
Les échelles de temps ne sont pas les mêmes. Hein. Oui. C'est plutôt en siècles ou voire en milliers d'années que ça se passe pour l'axe de rotation de la Terre. Tandis que là, on a quelque chose qui nous parle, parce que 11 ans, naturellement, c'est quelque chose qu'on peut suivre.
Voilà, vous venez d'entendre l'interview de Jean-Paul Zanne, réalisée le 27 janvier dernier lors de sa venue pour la conférence dans le cadre de la semaine de l'astronomie qui s'appelait « Le soleil au maximum d'activité ». Donc c'était lié aux taches solaires, et puis au passage, on a fait parler Jean-Paul Zanne, ce grand astrophysicien spécialiste du soleil, on l'a fait parler bien sûr de son astre de prédilection. Alors j'ai vu Frédéric pendant cette partie de l'interview trépigner de temps en temps, parce qu'évidemment Jean-Paul Zanne a évoqué plein de notions. Hein, on a parlé de la couronne solaire, on a parlé de coronographe, on a parlé de pic du midi. Là, Frédéric, tu es particulièrement sensible puisque tu as fait des missions au pic, tu as participé aux missions SOHO. Alors, je sens que tu as des choses à dire.
Oui, oui. Donc, j'ai la chance de participer à une campagne d'observation à l'observatoire du pic du midi.
Avec les frites?
C'est un groupe, ne me trouble pas. C'est un groupe d'observateurs qui se nomme les observateurs associés au projet satellite SOHO, qui a eu bien des malheurs il y a quelques temps. Et c'est un groupe d'observateurs qui utilise donc l'un des coronographes du pic du midi. Et on observe la couronne. Et là où j'étais pas tout à fait d'accord, c'est que la couronne, en fait, ce n'est pas uniquement ce que l'on voit pendant une éclipse totale, c'est-à-dire l'auréole blanche qu'on voit autour du disque solaire ou lunaire quand il y a éclipse totale. C'est en fait, c'est aussi ce qu'on appelle la chromosphère, c'est-à-dire l'atmosphère basse du Soleil,
celle qui est lumineuse.
En fait, c'est la couronne froide, ouais, hein, qui émet en rouge, qui est à une température de 4500 degrés. Et
c'est le début de la couronne.
Voilà, un des problèmes du Soleil et de son atmosphère, c'est que on a de la matière froide à 4500 degrés dans les basses couches de l'atmosphère qui cohabitent avec de la matière extrêmement chaude à plusieurs millions de degrés. Et il y a des transitions, il y a des changements d'état de la matière extrêmement rapides, et ça on comprend pas très bien comment que ça se passe. Il y a le champ magnétique qui joue un rôle prépondérant, et on étudie ça avec les coronographes en particulier.
Voilà. Mais on va peut-être détailler tous ces aspects hein, dans, tout à l'heure dans le débat. Et il a parlé effectivement, Jean-Paul Zanne, des missions SO. Il a aussi parlé des ondes sonores. Il y a une explication notamment sur la température de cette couronne qui peut atteindre plusieurs millions de degrés. Il faut rappeler que la surface du Soleil n'est qu'à 6000 degrés. Alors attention, juste une petite parenthèse. 6000 degrés pour une étoile, c'est moyen. Il y a des étoiles froides, elles font 3-4000 degrés. Les étoiles très chaudes font jusqu'à plus de 30000 degrés. Donc 6000 degrés, c'est modeste. C'est une petite étoile.
Le problème de la couronne solaire, c'est plus on s'écarte d'un radiateur. Le radiateur, c'est le soleil. Plus on s'écarte d'un radiateur, plus il fait froid.
Ça, c'est chez nous, ça.
C'est la loi normale de la thermodynamique. Voilà. Or, dans la couronne solaire, plus on s'écarte du radiateur, plus il fait chaud. Puisqu'on a des températures à la surface. Enfin, ce qu'on appelle la surface, c'est le disque brillant du soleil qu'on appelle la photosphère, qui est pris comme niveau zéro. Cette surface est à 6000 degrés, un tout petit peu moins. On s'écarte un petit peu dans la basse couronne, il fait 4500 degrés. Donc là, jusque-là, c'est normal, il fait plus froid. Mais quand on s'écarte encore, très très vite, les températures montent de façon vertigineuse. Et on atteint des températures dans la couronne de 10 à 10 millions de degrés. De 1 à 10 millions de degrés.
Cela dit, il faut préciser que si on mettait...
La pression chute énormément, les quantités de matière sont très faibles.
Ouais, si on mettait le doigt dedans, on ne se brûlerait pas.
Voilà, non, non. Ouais. C'est un plasma, c'est un gaz très raréfié, très chaud, très agité, électrisé. Et c'est un milieu extrêmement dynamique. Qui bouge énormément, qui change d'état rapidement au gré des lignes de champ magnétique. Il faut voir que dans la couronne, ce qui joue un rôle vraiment important, c'est le champ magnétique du Soleil.
Et c'est lui qui contribue à cette élévation thermique ou c'est
vraisemblablement, oui.
Mais il y a peut-être tout qui contribue.
Il y a tout parce qui contribue. Ouais. Mais il a sans doute un rôle prépondérant.
Même le vent solaire, parce que moi j'ai appris ça aussi, que le rayonnement lui-même, quand il arrivait dans ses hautes couches, ben, ce rayonnement continuait, parce qu'il y a le rayonnement thermique, mais aussi le rayonnement direct, hein, d'autres ondes qui finissent par exciter ces atomes qui sont même ténus. En 10 millions de degrés, quand il y a un atome au centimètre cube, ça ne se sent pas en fait. Hein.
Oui.
Donc on va détailler toutes ces choses-là tout à l'heure, mon cher Thierry.
Tout à fait, on va... La suite de l'émission, ça va être justement, on va parler du soleil, on en a déjà parlé un petit peu, et on parlera après des actus astro, mais tout de suite une petite pause musicale avec un léger rapport avec le soleil. Donc on a déjà parlé tout à l'heure, on a passé l'interview de Jean-Paul Zanne, qui a fait une conférence à Nantes le 27 janvier sur le soleil. Et donc là maintenant on va parler un peu plus en longueur entre guillemets du soleil, présenter rapidement l'astre et puis parler beaucoup de choses, qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le soleil.
Voilà, parce qu'on va développer un peu les aspects qu'a abordé Jean-Paul Zanne, plus d'autres en compagnie de Frédéric Guinel, qui est donc un peu notre spécialiste du soleil à la SAN, hein, Société Astronomie. Il a fait une mission au Pic du Midi, une mission SO. Enfin bref, il est l'homme de la situation.
Il a même fait des conférences. Pour ceux qui veulent savoir Frédéric Guinel, pendant que vous écoutez la radio, vous allez sur internet, vous allez sur le site de la SAN, san-fr.com. Vous aurez sa photo, vous aurez aussi la photo de notre président. Moi, je suis pas dessus.
Je fais des dédicaces si vous voulez. Tout, on va prendre une.
On va donner l'adresse alternante pour les fans.
Comme les confessions à la cathédrale. Voilà. Alors autrement, Frédéric va nous rappeler rapidement qu'est-ce que c'est que le Soleil, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé. Hein, faut rappeler que c'est une étoile, vas-y. Bon,
on peut dire que c'est une étoile. Donc il y a une définition assez courte d'une étoile, qu'on peut donner d'une étoile. C'est un réacteur à fusion nucléaire à confinement gravitationnel.
C'est ce que j'allais dire.
C'est très simple.
Confinement gravitationnel, parce que il s'effondre sur lui-même.
Il confine la matière dans un volume donné.
Elle a tendance à s'échapper.
Voilà. Au cœur, la température est très élevée, suffisamment élevée pour permettre des réactions de fusion nucléaire de se faire. C'est dans le cas du Soleil et de la plupart des étoiles, c'est la fusion de l'hydrogène en hélium qui dégage énormément d'énergie.
Il y a quand même quelque chose comme 15 millions d'atmosphères ou 10 millions, je ne sais plus, d'atmosphères.
Oui. Ben, on a une température de 15 millions de degrés. Et oui, plusieurs milliards d'atmosphères. Mais c'est toujours du gaz en fait. C'est plus dur que de l'acier, mais c'est toujours du gaz.
Et alors la pression est tellement grande que les atomes d'hydrogène ils finissent par se souder. Hein. C'est la fusion thermonucléaire. Voilà.
C'est, voilà. C'est simpliste comme vision, mais c'est, en gros, c'est ça.
Alors, répète la définition, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont noter. Donc, prenez le crayon, alors attention. C'est
dans une conversation.
Normalement, c'est à bien ressortir d'une conversation. Ben, on peut, vous voyez, le soleil, c'est.
Dans une conversation, voilà.
Dans un salon,
bien.
Par exemple.
Voilà, dans un salon.
C'est un réacteur à fusion nucléaire à confinement gravitationnel.
Voilà.
C'est un réacteur à confinement. Un réacteur nucléaire à confinement gravitationnel.
Voilà.
C'est génial.
Ouais, ça sert à ressortir.
Et c'est ça une étoile, ça n'est rien d'autre.
Voilà. Et c'est la seule étoile dont on puisse observer la surface.
Parce
les étoiles les plus proches sont à un peu moins de 5 années-lumière. Elles ont un diamètre apparent équivalent à la largeur d'un cheveu vu à 20 km, ce qui n'est quand même pas énorme.
Ouais.
C'est incroyable.
Donc c'est la seule étoile dont on puisse en détail voir la surface.
On a réussi à voir légèrement un disque. Mais
voilà, on arrive à observer quand même des taches sur d'autres étoiles. Mais ça reste très très limité.
Alors,
on sait que sur d'autres étoiles, il y a des super taches solaires.
Il doit y en avoir.
Très grosses taches. Ouais. Le Soleil a des taches relativement petites par rapport à sa taille. Donc c'est caractéristique. 1 400 000 km en diamètre.
C'est 3 fois la distance de la Terre à la Lune.
Voilà. 109 fois la taille de la Terre, le diamètre terrestre. 400 fois le diamètre lunaire.
Température de surface, on l'a déjà dit.
Âge respectable, un peu moins de.
Respectable.
Un peu moins de.
5 milliards.
5 milliards d'années.
Alors, est-ce que le Soleil va prendre du DHLA ?
Pardon ?
DHLA.
DHLA. Moi,
il n'en a pas besoin, parce qu'il a quand même.
Il est encore 5
en forme, oui, il est quand même en plein.
Il a la moitié de sa vie.
Voilà, il est adulte, il peut encore continuer au moins pendant 5 milliards d'années.
Pourvu qu'il ne se reproduise pas. Sans nous prévenir. Alors en fait, on va dire
la distance est, quand même.
La distance, 150 millions de kilomètres.
Voilà,
c'est ça
150 millions de kilomètres.
De la Terre, bien sûr.
Ça fait 8 minutes de lumière. Lumière.
La vitesse lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Une année lumière.
Une année
lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres sur un an.
Et la lumière.
Et donc à la seconde, ça fait 300 000 kilomètres à la seconde. Et là, on a 8 minutes.
Lumière. C'est quand même assez loin.
C'est
donc
quand même
si le Soleil s'éteint, on ne le saura que 8 minutes plus tard.
Oui, bah ça laisse de la marge. Allô, je me suis éteint. Plouc.
Une minute plus tard, hop.
Donc le Soleil est en fait, comme toutes les étoiles, il est constitué d'une multitude de couches superposées. C'est comme un oignon. Les couches sont gazeuses, elles ont des états physiques différents, température, pression différentes.
Qu'est-ce que c'est un oignon ? C'est la base d'une tige de monocotylédone.
Ça aussi, ça ressort dans une conversation. Et on vous apprenait des mots avec Pulsan, c'est démentiel.
Et
voilà, alors là, ça s'appelle en langage technique un blanc. Voilà.
Court. Un oignon blanc.
Un oignon blanc, voilà.
Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre.
Alors, petite de comparaison, la plus proche étoile, donc 4,3 années-lumière, 5 années-lumière, tu l'as dit, donc 5 fois 10 000 milliards de kilomètres. Ça fait 4 à 5 années de lumière, de voyage de la lumière à 300 000 km/s. Le Soleil, c'est 8 minutes. Ça donne une idée un peu de la proportion. Mmh. Le système solaire, c'est quand même.
100 000 ans à la vitesse d'une fusée normale pour atteindre l'étoile la plus proche, à peu près.
Et une seconde à la vitesse de la pensée.
Tout à fait.
Ça, c'est formidable. Et donc là on arrive. Donc le Soleil, c'est une étoile. C'est une étoile moyenne. C'est une étoile jaune. Mais ça, la couleur, c'est dû à la température de surface.
Oui, il y a un lien direct entre la couleur d'une étoile et la température de surface.
Ce qui, entre parenthèses, quand on voit la couleur d'une étoile, si vous regardez bien, prenez des jumelles, n'importe quoi, si vous voulez savoir la couleur d'une étoile ou les couleurs d'une étoile, vous la décomposez, vous faites tourner vos jumelles, hein, ou vous les faites vibrer rapidement de vos yeux, et vous voyez la lumière se décomposer. Alors, excuse-moi Frédéric, toi qui es un grand spécialiste de la spectroscopie, ça c'est de la spectroscopie...
Amateur.
Pour monsieur, madame, tout le monde, mais on voit que Bételgeuse, il y a plus de rouge,
oui,
on le voit.
Tout à fait, oui.
Voilà. Donc ça, on sait que d'après la couleur des étoiles, on peut connaître leur taille.
C'est un peu le principe de la bougie, c'est-à-dire que quand vous voyez une bougie, la flamme de la bougie, il y a des différentes couleurs. En fait, le plus chaud, c'est proche de la mèche, et le plus froid, c'est...
Je dirais plutôt l'exemple du fer à cheval.
Ou du fer à cheval. Si tu veux, quand tu le chauffes, tu as différentes températures.
Le fer est froid, température de la pièce, il émet uniquement de la chaleur, température de la pièce. Plus on chauffe, plus il va émettre du rayonnement visible. Qui va s'étendre vers le bleu, chauffé à blanc. Donc,
chauffe à blanc, mais on s'arrête au blanc en général dans les forges.
Si on va plus loin, on pourrait chauffer à 10 000 degrés, On aurait un gaz de fer qui émettrait du bleu et même de l'ultraviolet. On pourrait bronzer à son fer à la lumière de son fer à cheval.
Donc entre guillemets, plus une étoile est rouge, plus elle est froide, voilà. Et plus elle est bleue,
c'est le contraire,
plus elle est chaude.
Il faut se souvenir que c'est le contraire des robinets.
Voilà, c'est ce qu'est en fait les pauvres constructeurs de robinets ont inversé par rapport aux étoiles.
Ils ne connaissaient pas la loi de Stefan.
Voilà.
Voilà, tout simplement. Alors juste une exception, les étoiles rouges c'est normalement des toutes petites, très froides, 3000 degrés, hein. Mais il y a aussi des géantes rouges.
Voilà, qui comme sont il y a aussi des géantes bleues.
Et voilà. Mais les géantes bleues, c'est des étoiles qui viennent de naître et qui sont très, simplement très bleues parce qu'elles sont très grosses.
Oui.
Les géantes rouges, c'est d'anciennes étoiles comme le Soleil qui sont dilatées.
En fin de vie, des étoiles très, très dilatées, en fait. Leur cœur va se réchauffer en fin de vie. Parce que les réactions de fusion nucléaire vont changer.
Moins de confinement gravitationnel, donc elle se dilate.
Ce sera plus de l'hydrogène qui fusionnera en hélium, ce sont d'autres réactions de fusion qui vont dégager plus d'énergie, donc le cœur va se réchauffer, mais pour que l'étoile conserve son équilibre, elle va se dilater pour augmenter sa surface de rayonnement, donc elle va augmenter son volume. Et en surface, la température sera plus basse, donc l'étoile va être plus rouge.
Tu l'as rappelé tout à l'heure que la Terre, en fait, il fallait 109 Terres mises bout à bout pour faire le diamètre du Soleil. Il en faut 400 lunes.
Oui.
400 lunes pour faire 400 diamètres de lune pour faire un soleil. C'est en fait, on parlait un peu des éclipses.
En géante rouge, il faut 300 soleils.
Voilà. Et en fait, quand on parle d'une éclipse de lune, une éclipse de soleil, on est les seuls dans le système solaire à avoir le droit à avoir une éclipse.
Ah oui,
si vous allez sur n'importe quelle planète.
C'est un privilège absolument extraordinaire.
C'est magnifique, puisque
en fait. Sans doute. Dans l'univers,
presque,
des rares planètes sur laquelle on peut voir des éclipses totales de soleil, pas instantanées, mais relativement courtes, parce que vu de la Terre, le diamètre apparent du soleil est très voisin du diamètre apparent de la Lune. Mmh. Elle est en réalité 400 fois plus petite, mais elle est aussi 400 fois plus proche.
Voilà, donc en fait, ça s'annule.
Voilà, donc les deux ont à peu près le diamètre. Et ça, c'est un privilège extraordinaire de pouvoir justement observer pendant relativement peu de temps le bord extérieur du Soleil au cours de ces phases totales, d'éclipses totales.
C'est absolument un aléa, un hasard extraordinaire.
Voilà, on n'a pas conscience de ce hasard. Il faut prendre un peu conscience
non,
de ce hasard.
Si vous allez si haut part dans le système solaire, vous ne verrez jamais d'éclipses.
Et bientôt, on n'aura plus d'éclipse totale.
C'est ça le problème.
Enfin,
parce que la Lune s'éloigne un peu. Ouais. Voilà.
Parce que comme la distance Lune-Terre augmente, le diamètre apparent de la Lune devient de plus en plus faible et il y aura
des éclipses
un moment, à une date que j'ignore, il y aura l'ADER-DEDER. Alors, il y aura la dernière éclipse totale visible depuis la Terre.
On sera là pour fêter ça ou ça sera tellement loin?
Non, je crois très loin.
Pas mal de temps.
Ouais.
Bon. Et après, il n'y en aura plus. Il n'y aura que des annulaires.
Parlons bien qu'un éclipse, donc on y est, puisque je crois que tu pars dimanche, c'est ça?
Voilà, je suis un grand observateur d'éclipses. Donc, j'en ai fait une il y a quelques années, en 94, au Chili. J'ai eu la chance, la grande chance, mais ça, c'était vraiment le hasard. Pour le 11 août, vu la situation météo du moment, c'était vraiment la loterie. Certains l'ont vu, d'autres l'ont pas vu. J'ai eu la chance de la voir. Et je pars la fin de la semaine au Zimbabwe pour observer une éclipse totale de soleil, relativement longue, 3 minutes 15 secondes.
Dans la partie sud, Afrique australe.
Afrique australe, pas très loin des chutes Victoria. En plus, décor super,
grandiose. Tu as ramené de belles photos parce que tu es aussi un photographe chevronné.
On a la chance que c'est la saison sèche, donc les probabilités de beau temps sont relativement bonnes, mais bon,
on ne sait jamais.
On reste.
En matière d'éclipse, Saint Thomas est le patron de tous les astronomes amateurs d'éclipse.
Du nuage qui va gâcher le spectacle.
On va pouvoir parler justement de l'éclipse. C'est un des moyens qu'ont utilisé les astronomes pour observer le Soleil. Il y en a d'autres. Donc on va peut-être pouvoir en parler entre guillemets rapidement. Il y a l'observation qu'on fait, qu'on peut faire tous les jours avec un télescope, soit avec un filtre, soit en rétroprojection pour voir les taches. Il y a aussi le coronographe et les éclipses. Je crois que c'est les trois plus principaux. Je parle sur Terre, bien sûr.
Oui, bien sûr. Donc je crois qu'il faut vraiment insister sur le fait que l'observation du Soleil est dangereuse. Il faut prendre énormément de précautions. Lorsque l'on achète un instrument d'optique amateur, il faut dès l'achat, se débarrasser
du
filtre marqué Sun. C'est dangereux.
Oui, parce qu'on le met, on le met à l'oculaire.
Au foyer.
On est au foyer.
C'est à l'oculaire. Donc,
l'endroit c'est
l'endroit
plus chaud.
Où c'est le plus chaud. Où il y a la plus grande concentration de lumière et de chaleur. Donc, c'est à écarter. C'est dangereux. Je comprends pas d'ailleurs que des associations de consommateurs ne se soient pas.
Je crois qu'ils ont.
C'est vraiment dangereux.
Par contre, si vous voulez mettre un filtre, il faut le mettre
à l'avant. Devant l'objectif.
Que ce soit pour une lunette ou pour un télescope d'ailleurs, même il y a même des filtres pour des jumelles.
Voilà,
parce qu'en fait, on peut observer.
Faut mieux pas parler de jumelles pour l'observation du soleil. Faut une lunette, un télescope et avant tout investir dans un filtre pleine ouverture, c'est-à-dire qui recouvre complètement l'objectif à l'avant de l'instrument.
L'autre système, c'est mettre un carton, mais là, en ce cas-là, on voit plus rien.
Il y a une autre solution. C'est la projection.
La projection.
Donc là, à ce moment-là, on met pas de filtre et on projette l'image sur un écran. Mais ça reste aussi un peu délicat parce que si on observe en groupe avec des enfants,
ouais, c'est ça le problème.
Très rapidement, un gamin peut mettre l'œil fraction de seconde et
sur
puis
une
l'accident.
Voilà.
J'ai montré justement
qu'au foyer en pointant le soleil, lorsqu'on se met à l'oculaire, là, normalement, les gens sont tentés de mettre leur œil.
Ouais.
Moi, je mettais une cigarette et je l'allumais.
C'est
impressionnant. Là, ils comprennent vite. Hein.
Pour aussi une petite idée, par exemple, actuellement, la Lune, j'en ai parlé tout à l'heure, elle est pas pleine, mais elle l'était il y a pas quelques jours. Et en fait, si vous observez au télescope la Lune, pendant quelques secondes, sans aucun filtre, quand elle est pleine, vous avez déjà très lumineux. En fait, au bout de 10 secondes, vous regardez autre part et déjà, il y a une partie de votre œil, le centre de l'œil, vous ne voyez plus rien, c'est noir.
Oui.
Entre guillemets, c'est réversible sur la Lune, parce qu'en fait, ça a abîmé les récepteurs de notre œil, c'est réversible sur la Lune, mais quand vous observez le soleil, ça les brûle carrément.
Et l'accident arrive très très vite, le réflexe de recul est trop lent par rapport à la brûlure est déjà... Ouais. Donc c'est dangereux, il faut prendre beaucoup de précautions et ne pas hésiter à prendre des renseignements auprès de sociétés d'astronomie, d'opticiens, il faut vraiment prendre beaucoup de précautions.
Voilà, vous venez nous demander.
Mars, etc., vous n'hésitez pas, vous prenez n'importe quoi, entre guillemets, le soleil, il faut vraiment
Alors, comme autre moyen
terrestre, on va
d'observation,
dire.
Je dirais que pour les professionnels, le gros problème de l'observation du soleil, c'est que ça se fait de jour, et le jour, il y a beaucoup de turbulences. Et les images sont toujours dégradées à cause de la turbulence
atmosphérique.
L'air est agité le jour, il y a de la chaleur, le soleil chauffe l'atmosphère, il y a des turbulences. Et ça, c'est vraiment l'ennemi numéro un de l'astronome solaire. Donc il faut concevoir des instruments qui permettent justement de supprimer au maximum ces turbulences. Soit en mettant l'instrument en altitude, au-dessus de la chaleur qui se dégage du sol, éventuellement en enlevant l'air du tube de l'instrument.
Vous pompez, donc, là, vous
voilà, aspirez. On pompe l'air à l'intérieur de l'instrument pour
si
avoir le
dire.
Vide, pour éviter les turbulences instrumentales internes.
Je crois que là on s'aventure un peu loin dans les conseils, quoi, parce que
je parlais d'instruments professionnels.
Donc il y a aussi le coronographe,
qui est aussi donc un instrument, je dirais,
professionnel.
Ça, il n'existe pas beaucoup de coronographes amateurs.
On reproduit,
le principe est relativement simple. Inventé par Bernard Liot dans les années 50, plutôt technicien.
Opticien.
Français qui a inventé un système optique permettant de cacher le disque solaire. On reproduit dans un instrument,
c'est
dans
comme
une lunette.
Comme si on mettait son doigt devant l'œil, en fait, pour cacher le soleil.
Voilà,
là, c'est pas le doigt, c'est un rond.
Voilà, on met un disque occulteur qui cache le disque solaire à l'endroit où se forme l'image du soleil dans l'instrument.
Il faut dire aussi que c'est pas vraiment un disque, c'est un cône pour éviter que ça chauffe.
Voilà, pour différentes
raisons. Et on a trois cônes, je crois, selon, parce
aussi,
que la Terre est pas toujours à la même distance du soleil.
Le propre du coronographe de Bernard Liot, c'est d'avoir inventé ce qu'on appelle l'occulteur de Liot, ce qui est en fait un cache qui permet de supprimer des reflets parasites de l'objectif, et c'est en fait surtout ça qu'il a inventé. Donc il a inventé un instrument permettant de reproduire une éclipse totale et permettant de supprimer tous les reflets parasites possibles et imaginables.
Mais il faut quand même préciser que la couronne solaire, malgré tout, on la voit quand même mal, même avec un coronographe, parce que le fond du ciel, voilà. ma foi, n'est pas noir.
La couronne solaire a un éclat comparable à la pleine lune. Et la couronne solaire est donc juste au-dessus du disque brillant.
Ouais.
Et elle est toujours en pleine, complètement perdue dans l'auréole. Si vous mettez le doigt devant le soleil en pleine, à Nantes, en faisant attention de ne pas vous éblouir, vous verrez une magnifique auréole autour du soleil. Ce sera évidemment pas la couronne, ce sera une auréole créée par la vapeur d'eau, les poussières, les aérosols dans l'atmosphère.
L'atmosphère.
Et cette auréole est mille fois plus brillante que la couronne.
C'est pour ça qu'on va en montagne, voilà. Notamment au pic du Midi.
Voilà, donc on va sur des sites où le ciel est dit coronal.
Voilà.
C'est-à-dire, quand on cache le disque solaire avec le doigt, le ciel est aussi bleu juste à côté que derrière soi, derrière le soleil. C'est un ciel sans auréole. Et dans ces conditions, avec un coronographe de Lyot, j'entends bien, on peut observer la couronne blanche, c'est-à-dire la haute atmosphère du soleil.
Et pour en, il y a une autre façon d'observer, c'est bien sûr, pour avoir ces problèmes de ciel plus ou moins parfaits, on part d'atmosphère, on prend carrément
un satellite, comme SOHO, qui a plus d'une douzaine d'instruments embarqués.
Donc, qui est envoyé par l'Agence Spatiale Européenne.
Voilà, qui est un satellite donc européen. Qui a une durée de vie très longue, puisque ça va faire près de 6 ou 7 ans qu'il est en l'air. Et il fonctionne très bien, tous les jours il envoie des images. Et à bord de ce satellite, qui est spécialisé sur l'observation du Soleil, il n'observe que le Soleil, et il y a en particulier toute une batterie de coronographes, en particulier donc l'expérience LASCO, qui permet d'observer la couronne très étendue, très externe. Et c'est la première fois qu'on avait des images tout à fait extraordinaires où on pouvait observer à la fois les étoiles. Il n'y a pas longtemps, le Soleil est passé à côté des Pléiades, dans le Taureau, à main d'étoiles.
Et on voit les Pléiades derrière la couronne solaire.
On voit les Pléiades et la couronne en même temps. Donc on voit l'atmosphère du Soleil et le fond d'étoiles derrière. Quand, en hiver, le Soleil traverse le Sagittaire, des régions très brillantes de la Voie lactée, où le ciel est très, très chargé en étoiles, on voit des myriades d'étoiles avec la couronne. C'est tout à fait...
Si vous voulez voir des photos de SOHO sur Internet, il y en a plein.
Vous allez sur l'adresse exacte, mais vous allez dans un moteur de recherche.
Il y a un lien sur le site de la SAN.
Voilà, BASS 2000, vous tapez dans un moteur de recherche.
Ou même vous allez sur le site de la SAN. Voilà, et puis
BASS 2000, espace Meudon, vous trouverez des banques de données, d'images.
On va faire une petite pause musicale, et puis après on va revenir rapidement sur le site.
Alors mon cher Thierry, à part le soleil, qu'est-ce qu'il y a comme actualité, qu'est-ce qui nous brûle, qu'est-ce qui est brûlant d'actualité?
Voilà, mais en fait, on va parler, ce qui est brûlant, ce qui est assez loin, on va parler du voisinage de Pluton, rapidement, puisqu'en fait, il y a eu
un glacé, moment... ça.
C'est un peu glacé, c'est pour ça que j'ai dit qu'on allait s'éloigner un peu
du soleil. On va faire le chaud et le froid.
Voilà, faire le chaud et le froid, puisqu'en fait, il y a eu une grosse annonce qui a été faite, comme quoi on avait découvert une 10e planète, etc. C'était la folie, et tout le monde était content. C'est juste un astéroïde qui est proche de Pluton, faut pas rentrer, c'est juste un petit, ce qui s'appelle Varuna. Un petit astéroïde, faut pas non plus s'embêter de plus que ça, hein. C'est juste un astéroïde, donc c'est pas une 10e planète. Déjà Pluton, on se pose la question, c'est vraiment une planète, on considère
non.
que c'est plus un...
Alors, ce qu'avait dit André Braïc, faut être sérieux, non, Pluton n'est plus honnêtement une planète, mais... Alors, il a dit, d'une part, bon, ça a été découvert par les Américains, on va quand même leur laisser ça, c'est un peu plus jeune. Et d'un autre côté...
Il faut rendre hommage à Tom Tambov, qui est rentré par la petite porte dans le monde de l'astronomie. C'était un garçon de ferme.
Oui,
et il a eu le privilège de découvrir une planète.
Voilà.
Lui, hommage. Donc, gardons
Oui, mais tout le monde est d'accord en fait pour garder Pluton parce que ça va être une querelle d'arrière-garde. Oui. Les gens qui sont rentrés par la petite porte, il y a Humason qui était conducteur de mule, qui était l'assistant de Hubble. Il y avait le concierge Jean-Louis Ponce de l'Observatoire de Marseille. Et effectivement, bon voilà.
Non, c'était juste pour. C'était une contre-info, c'est bien pour dire. Prendre tout ce qu'on vous dit.
Une non-info,
voilà. La petite info importante, on a parlé tout à l'heure lors du ciel du mois de Mercure. Il faut quand même savoir que la NASA va reprendre l'exploration de Mercure. Enfin, puisque en fait la seule sonde qui avait été. On a envoyé, c'est quand même dommage, on a envoyé une sonde.
Mariner 10.
Qui est partie Mariner 10, qui a fait qu'a cartographié moins de 50% de la surface de Mercure. Donc c'est une planète qu'on a très peu connue. Donc il y a les Américains qui vont envoyer une sonde, et puis les Français, les Européens aussi qui vont envoyer une sonde. Les Américains, ils vont faire un truc un peu gâchis, c'est la méthode américaine, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer une sonde un peu à fond, va prendre quelques photos rapidos, et puis après va refaire un autre tour, et puis quelques photos rapidos, et puis ça va être tout. C'est un peu une sonde qui va aller rapidement, elle va coûter très peu cher, mais elle va partir. Par contre, la sonde européenne, elle, va se poser, va rester en orbite, etc. Donc là, on aura une cartographie rapide. L'avantage que veulent les Américains, surtout, c'est d'obtenir les premières images haute résolution de la planète Mercure. On vous en reparlera, c'est pas avant 2004-2009 qu'ils vont commencer à décoller, donc on a encore un peu le temps d'y aller.
Donc Pulsan 354,
on vous en parlera après. Faut quand même... Petite chose, ça fait 3 mois qu'on n'avait pas parlé des fusées Ariane. Elles redécollent, elles ont bien redécollé. Une petite question, on est rendu à combien de fusées Ariane qui sont parties?
Pour moi, dit, allez, 150.
Ah, t'es pas loin.
Bon, je sais pas, 100...
141e. Ah. Hein, c'est quand même pas mal. Hein. C'est bien, Daniel.
Qu'est-ce que je gagne?
Donc, elle a...
C'est une Ariane 4 ou une Ariane 5?
Une Ariane 4, celle-là, je crois. Donc, bah, elle est repartie, elle a mis le satellite Intelsat 901 en ligne... En orbite plutôt, donc c'est une petite info
en ligne, il parle comme un informaticien.
Comme un informaticien. La petite suite autrement, bien sûr, la Station Spatiale Internationale, que vous pouvez observer tous les soirs, il suffit d'aller sur le site, il y a des sites qui vous donnent l'observation des passages de la Station Spatiale Internationale.
On peut régler sa montre dessus, ça fait chic.
Ouais, ça fait chic, ouais, c'est vrai que...
C'est possible en plus.
Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a un passe à leur pile. Hein. Donc, il y a un petit problème informatique sur le bras canadien de la station spatiale. Donc, en fait, la navette spatiale Atlantis qui devait aller s'arrimer dessus a été reportée au 20 juin. Maintenant, on est rendu qu'au début juillet. Donc, c'est pas prêt d'avoir de la visite là-bas.
L'amiral s'arrima. Ça rime à quoi? Ça rime à rien.
Ça rime à rien. Dernière petite info, puisque
en fait... Notre ami Prévert.
Voilà. La dernière petite info, c'est que la NASA va envoyer Casper dans l'espace.
Casper.
Le fantôme.
Casper.
Voilà, donc le fameux fantôme qu'on entend tous un peu parler, que vous avez tous connu.
Casper en alsacien, c'est Casper. Ouais.
Et donc en fait, c'est pas exactement le fantôme qu'ils envoient, c'est un logiciel d'intelligence artificielle qui veut dire alors Continuous Activity, Shuttling, Planning, Execution, Inferno Planning. Donc voilà, ça c'est.
Alors là, c'est un scope tier, il parle en anglais, c'est la deuxième fois que ça arrive, la dernière fois il avait perdu un ovaire. Excuse-moi.
Vas-y, continue. Donc en fait, c'est pour des micro-satellites, ils vont envoyer un logiciel d'intelligence artificielle. Il faut espérer que ce ne soit pas fait par Microsoft, puisque en fait, le problème c'est que c'est.
On parle d'intelligence.
J'ai mon Windows qui a planté aujourd'hui. Non.
Ça suffit. En fait, ces 3 petits satellites, ils devraient leur permettre en fait de filtrer les informations. C'est-à-dire en fait, en totale autonomie, ils vont envoyer des infos que si ils les considèrent comme pertinentes, et puis les autres, ils vont les effacer. Le problème c'est que c'est un logiciel américain. Moi, personnellement, je suis assez sceptique. J'ai l'impression qu'elle ne va pas observer grand-chose, ces 3 petits satellites. Donc,
Mais l'avantage des logiciels américains, c'est qu'ils nous montrent tout ce qu'il ne faut pas faire.
Voilà, donc on va bien voir.
Il faut les garder.
C'est pas signé Bill Gates.
Je sais pas. C'est la NASA.
Il faut espérer que non. Bill Gates.
Restons français. Qu'il ne fasse pas de bêtises. Donc, on envoie... ils vont envoyer quelques satellites. On va voir ce que ça va donner. Voilà, c'était tout. C'était assez court. On a fait ça court.
C'est extraordinaire. Oui, bravo Thierry. Mais tu n'as pas pu t'empêcher de faire ton petit couplet anti-américain primaire.
J'ai eu un maître d'André Braïc lors de la conférence qui nous a fait un couplet assez mirobolant.
Absolument. Alors je crois que oui, effectivement, puis il faut le dire quand même. Donc ce qu'il faut surtout dire, c'est que la France a été et est toujours une très grande nation scientifique. Moi, je suis toujours désolé quand j'entends des jeunes parler des Américains. Ah oui, mais c'est eux, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Attends, ils n'ont pas fait tant que ça. Et surtout, ce qu'ils font, quand ils font un article en biologie, dans n'importe quelle science, ils omettent de citer leurs grands prédécesseurs. Ça, c'est de l'ingratitude et c'est surtout de l'inculture.
Voilà, c'était l'émission Pulsan, ça se finit, le temps passe vite, on vous a parlé du soleil, avec Frédéric Guinel et Daniel Worling, on vous a aussi parlé rapidement du ciel du mois et puis des actus astro. La prochaine émission, c'est le lundi 25, On va vous parler, juin, bien sûr. Mmh.
Après le solstice d'été.
Tout à fait.
Après l'éclipse.
Après l'éclipse, donc peut-être que Frédéric viendra. Tu seras revenu.
Il aura eu lieu le 21 juin.
Tu seras revenu ou pas?
Oui.
Ouais, donc
tu vas venir à chaud nous raconter.
Il nous montrera des photos sur la radio, on va faire une première.
Vous allez raconter.
N'oubliez pas le petit dicton du jour avant de clore, non pas clôturer, avant de clore la mission.
Oh,
à la Saint-Barnabé, grâce à Pulsan, vous allez apprendre plus de choses et évoluer.